Alléluia. Combien Dieu est grand. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise après? C'est comme une introduction à ce que nous allons partager ensemble. J'ai quand même mis une introduction dans ma prédication, mais vraiment que notre cœur soit disposé à réaliser combien notre Dieu est grand, infiniment grand. Que son nom soit béni. Nous sommes appelés à marcher par la foi et non par la vue, comme dit l'apôtre Paul aux Corinthiens. Souvent, nous le partagerons particulièrement ce matin, Dieu ne peut pas agir à cause de l'incrédulité dans nos cœurs. Vous croyez que cela peut arriver ? Jésus lui-même, ici-bas sur la terre, avec toute la puissance de Dieu qui émanait de sa vie, dans certaines situations, il est écrit dans l'Écriture, qu'il n'a pas pu accomplir de miracles au milieu d'eux à cause de leur incrédulité. Nous nous posons souvent la question, pourquoi Dieu n'agit pas ? Il est intéressant aussi parfois de se poser la question, mais pourquoi Dieu agit ? Et la foi reste un des piliers de la vie du croyant pour laquelle le bras de Dieu est prêt à se mouvoir. Dieu est grand, Dieu est tout-puissant, Dieu a tout accompli en Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé. Il y a plusieurs paraboles dans les Écritures qui nous montrent que tout est prêt. Il n'y a rien à y rajouter. Sinon, un acte de foi. Si vous pouvez dire ce matin, je suis un enfant de Dieu, je suis né de nouveau, je me suis engagé avec le Seigneur, c'est par votre foi. Jésus a dit souvent, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Ta foi t'a sauvé. Il a tout accompli. Mais sans notre foi, sans cette confiance inébranlable en lui, nous ne pouvons pas, parfois, permettre à Dieu d'agir dans nos vies comme il le souhaiterait. Le message que nous allons partager ce matin, c'est un peu beaucoup d'ailleurs, l'écho de celui que nous avons entendu dimanche dernier. Ne pensez pas que j'étais à court d'inspiration, mais vous pouvez relier très bien ce que nous avons entendu dimanche dernier avec ce que nous allons partager ce matin, parce que c'était une pensée très forte dans mon cœur. Rappelez-vous, notre pasteur dimanche dernier nous a dit, c'est vrai que la semaine est passée dessus, mais nous a dit que ce qui caractérisait un authentique croyant, c'était la confiance inébranlable qu'il avait en Dieu. Il nous avait encouragé, pour ceux qui se souviennent, à lui rendre grâce continuellement en toutes choses. Dieu est tout-puissant. Il sait toutes choses. Nous, c'est vrai, souvent on ne sait pas. Il sait. Il sait pourquoi. Il révèle ses secrets, tout ce que nous avons partagé dimanche dernier. La confiance inébranlable en notre Dieu, c'est-à-dire la foi authentique, c'est un thème qui est inépuisable dans la vie du croyant. C'est vrai que parfois on la réserve plus dans le domaine de l'évangélisation, mais ce matin, je voudrais vous montrer une de ces multiples facettes de la foi que nous devons vivre dans nos vies. On va faire une première lecture dans l'évangile de Matthieu au chapitre 17. Matthieu chapitre 17, on est toujours dans cette introduction, gardant à l'esprit cette pensée de la grandeur de notre Dieu. Matthieu chapitre 17, nous lirons à partir du verset 14, et intentionnellement je ne lirai pas le verset 21, on s'arrêtera au verset 20, verset 21 qui n'apparaît pas dans certaines traductions, et On ne va pas le lire, ce n'est pas le sujet ce matin. On pourrait en discuter, mais ce n'est pas important pour nous ce matin. Verset 14, Matthieu 17, 14. « Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique, épileptique dans certaines versions, et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Verset 19. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Écoutez la suite, je vous le dis en vérité. Quand Jésus dit je vous le dis en vérité, c'est quelque chose de très solennel. Je vous le dis en vérité. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, dans cette traduction, un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Amen. Quelle parole. Rien ne vous serait impossible. Un petit peu plus haut, on pourrait le lire parce que ce n'est pas très loin, au chapitre 13, verset 31, il est parlé encore de... Le Seigneur Jésus utilise cet exemple de la graine, juste pour voir, au verset 32, juste le début du verset 32, il est question donc au verset 31 du royaume des cieux qui est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. Verset 32, il est dit, c'est la plus petite de toutes les semences. C'est la plus petite de toutes les semences. Le Seigneur Jésus donc a pris l'exemple de la plus petite de toutes les semences pour parler, pour qualifier une foi qui est capable de l'impossible, de transporter les montagnes. Dans une certaine circonstance, les apôtres vont dire au Seigneur Jésus ceci, augmente-nous la foi. Et c'est vrai que quand on voit comment le Seigneur Jésus leur dit, gens de peu de foi, on l'a vu tout à l'heure, race incrédule, on peut comprendre que les disciples, quelque part, ils aient eu envie d'avoir une foi plus grande. Augmente-nous la foi, telle a été la prière des disciples auprès de Jésus. Et le Seigneur Jésus a dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait, dans Luc au chapitre 17 et le verset 5. C'est quand même curieux. Quand les disciples demandent à Jésus de rendre leur foi plus grande, Jésus va très clairement dire ceci, c'est qu'une foi minuscule, elle peut faire l'impossible. Rappelons ici quelque chose qui est fondamental dans la vie du croyant, mais je le rappelle quand même pour ceux qui n'y sont peut-être pas habitués, c'est que ce n'est pas la foi qui sauve. Malgré ce que j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas la foi qui sauve, mais c'est la foi en Jésus-Christ qui sauve. La vraie valeur de la foi, elle n'est que dans son objet. Et la Bible est claire, et Jésus lui-même a prononcé ces paroles, « Ayez foi en Dieu ». Et Jésus l'a même dit dans ce contexte où il dit après, « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là. » Ayez foi en Dieu. La foi authentique, elle n'a de puissance que dans l'objet « Ayez foi en Dieu ». Il n'y a pas de puissance dans la foi en elle-même. La puissance, vous savez qui c'est? C'est Dieu. La puissance, c'est Dieu. Avoir foi en Dieu signifie clairement que je cherche à mieux le connaître, pour de plus en plus réaliser sa grandeur. Ainsi, ce n'est pas la taille de ma foi qui importe dans l'affaire, mais bien la taille de celui en qui j'ai foi. Dieu est très grand. Dieu est très, très, très grand. Et si je le réalise pleinement dans ma vie, il me faut entre guillemets, pas beaucoup de foi pour me confier pleinement en lui. Et c'est le titre de notre partage ce matin, une petite foi en un grand Dieu. Ça sera même le développé de notre message. Dans un premier point, on va revenir sur Dieu est grand, Dieu est grand. Et dans un deuxième temps, nous reviendrons sur cette notion de petite foi. Alors attention, avant d'aller plus loin, je précise que ce n'est pas une invitation à ne pas grandir dans la foi. C'est bien de le préciser au passage, parce que je vais parler beaucoup de la petite foi. Ce n'est pas une invitation à ne pas grandir dans la foi. Bien au contraire, notre foi, elle a besoin de se fortifier jour après jour et de devenir de plus en plus grande dans notre vie. Mais réalisons ceci ce matin. C'est pour cela que je voulais qu'on puisse prendre ces cantiques. Il y avait même dans des louanges cette intonation. Réalisons pleinement, mes frères et sœurs, que notre Dieu, il est tellement grand qu'avec une foi de taille d'un grain de moutarde, tout nous est possible selon ce que nous avons lu tout à l'heure. Rien ne vous serait impossible. Alors le premier point, Dieu est grand. Qu'est-ce que vous voulez que je dise ? Prends toute la Bible, tout nous parle de la grandeur de Dieu. Retenez ceci. Une vision exacte de Dieu, de ce qu'il est, une vision exacte de Dieu, engendre la foi qui déplace les montagnes. Et j'en veux pour preuve, j'ai la preuve, attention. La plus grosse des montagnes que vous avez vous-même balayée par la foi, c'est la montagne du péché. C'est le jour où vous avez eu une vue exacte sur la grandeur de l'amour de Dieu. Ce jour-là où vous avez eu une vue exacte sur la grandeur de son pardon, que vous avez, par la foi, été sauvé. Des montagnes, nous en rencontrons plusieurs sur notre chemin ici-bas. Et notre foi, elle va trouver de la consistance chaque fois que nous connaîtrons davantage la grandeur de notre Dieu. Une petite foi en un grand Dieu. On va regarder l'expérience du peuple d'Israël. Ils avaient une sacrée montagne quand ils étaient en Égypte. Vous savez que cette histoire aussi est une préfiguration aussi de la nouvelle naissance. Nous aussi, nous étions esclaves du péché et Dieu nous en a délivrés. On va regarder quelques versets rapidement dans Exode au chapitre 1er. Je voudrais vous montrer quelque chose parce que s'ils sont sortis du pays d'Égypte où ils étaient en esclavage depuis des décennies et des siècles, c'est par la toute-puissance de Dieu, c'est aussi parce que Dieu leur avait envoyé un libérateur au travers de Moïse, mais c'est aussi, je voudrais vous le partager avec vous ce matin, c'est aussi à cause de leur foi. Alors, voyons quelle montagne ils avaient. Exode 1, chapitre 13, on fera juste que survoler des versets, si ça vous intéresse, relisez ces contextes chez vous, ça permettra peut-être de mieux réaliser certaines pensées. Exode 1, verset 13, regardez la montagne. « Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec, qu'est-ce qu'il y a écrit dans votre Bible ? Avec cruauté qu'ils leur imposaient toutes ces charges. » Ça c'est le contexte, ça c'est la montagne. Et quelle montagne ? Chapitre 3, verset 7, Dieu a entendu les cris de son peuple. Il choisit un libérateur en la personne de Moïse. Et il est dit, Exode 3, verset 7, l'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Éthiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici, Les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, l'Éternel s'adresse à Moïse, maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Amen. Exode 4, Moïse se présente devant le peuple, rapporte au peuple qui est donc dans cette oppression, qui est face à cette montagne, rapporte les paroles de l'Éternel. Et il est dit, dans Exode 4, au verset 30, Aaron rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse, et il exécuta les signes aux yeux du peuple. Qu'est-ce qui a marqué verset 31 ? Et le peuple crut. Ils apprirent que l'Éternel avait visité les enfants d'Israël, qu'il avait vu leur souffrance, et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Alléluia. Combien nous aussi, parfois, nous sommes touchés par la parole de Dieu, par ce que nous entendons. Et parfois, c'est vrai, dans les montagnes qui sont là, qui jalonnent parfois nos vies, des choses parfois insurmontables, parfois, effectivement, notre foi, elle est fortifiée. Que son nom soit béni. Mais, parfois également, le doute, il arrive parce que quand Pharaon il a appris l'affaire, il n'a pas du tout été d'accord avec le fait que le peuple d'Israël, et il a augmenté l'oppression envers les enfants d'Israël. Vous connaissez tout ce contexte. Et regardez le doute qui s'installe dans le cœur des enfants d'Israël. Chapitre 5, verset 19, pardon. 5, 19. Il est dit ceci, « Les commissaires des enfants d'Israël virent qu'on les rendait malheureux en disant, « Vous ne retrancherez rien de vos briques chaque jour la tâche du jour. » En sortant de chez Pharaon, ils rencontrèrent Moïse et Aaron qui les attendaient. Ils leur dirent, « Que l'Éternel vous regarde et qu'il juge. Vous nous avez rendus odieux à Pharaon et à ses serviteurs. Vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous faire périr. » On a lu tout à l'heure, hein ? Ils ont cru. Le doute s'installe. Regardez un petit peu plus loin, chapitre 6, verset 9. Je sais que c'est un peu frustrant de survoler ces textes, mais combien je vous invite chez vous à les relire, 5-6 chapitres en 2 heures de temps, c'est très rapide et on peut vraiment le lire consciencieusement. Chapitre 6, verset 9, regardez le doute, je l'ai marqué moi dans mes notes, le doute plus plus. Ainsi parle Moïse aux enfants d'Israël, c'est-à-dire qu'au début du 6, il y a le rappel, Dieu essaye d'encourager son peuple au travers de ce rappel de la promesse, mais verset 9, il est dit ceci, « Ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël, mais, retenez bien ce mais, l'angoisse et la dure servitude les empêchèrent d'écouter Moïse. » Le doute parfois, l'endurcissement dans nos cœurs, qui, et là c'est vrai, on en parle souvent ici, la frontière un petit peu dangereuse, notre cœur est carrément fermé à la parole du Seigneur. Exode chapitre 12, là on fait un bond. Exode chapitre 12, verset 27. Le même peuple d'Israël qui a cru à un moment donné, le même peuple d'Israël qui a été fermé à la voix de l'Éternel, il est dit au chapitre 12, verset 27. Vous répandrez, c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Qu'est-ce qui est écrit dans votre Bible ? Le peuple s'inclina et adora. Verset 28, les enfants d'Israël s'en allèrent et firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron, et il y a l'insistance dans le verset, et ils firent ainsi, que son nom soit béni. Que s'est-il passé entre tout à l'heure, le doute plus, qui empêche même d'entendre la voix de l'Éternel, et ce moment où le peuple, sans discuter, sans rechigner, est prêt à exercer sa foi, une foi qui s'exerce, je ne le partagerai pas ce matin, mais j'espère que pour vous c'est clair, une foi qui est automatiquement liée à l'obéissance. L'obéissance et la foi, c'est deux choses qui vont exactement ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, il y a eu les 10 plaies d'Égypte. En fait, il y a eu les 9, et il y allait avoir cette 10e plaie, toute la préparation de la Pâque. Le peuple a été confronté à la grandeur et à la toute-puissance de leur Dieu. les 10 plaies d'Égypte. Incroyable, la toute puissance de Dieu qui s'est manifestée aux yeux des Égyptiens, bien sûr, mais aussi aux yeux des enfants d'Israël qui ont été émerveillés, qui ont appris à connaître la grandeur et la toute-puissance de leur Dieu. C'est à tel point qu'ils ont expérimenté des choses incroyables. Il est dit, j'ai noté ce verset, « Ce fut seulement dans le pays de Gozen où étaient les enfants d'Israël qu'il n'y eut point de grêle. » Dieu avait envoyé cette plaie de la grêle et à un certain endroit, tiens, par hasard, il y avait les enfants d'Israël, il n'y avait pas de grêle. Pareil pour les ténèbres, il est écrit ceci, « Il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. » On ne se voyait pas les uns les autres et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. Alléluia. Le peuple d'Israël a été confronté, a vu et a réalisé la grandeur de son Dieu. Et il a cru. Et s'ils ont pu sortir du pays d'Égypte, c'est bien sûr par la main toute puissante de l'Éternel, par ce libérateur qui préfigure aussi le Seigneur Jésus-Christ comme médiateur entre nous et Dieu, mais aussi parce qu'ils ont cru, parce qu'ils ont eu la foi et parce qu'ils ont accompli tout ce que l'Éternel avait ordonné au travers notamment de la Pâque, qui est aussi cette préfiguration du sacrifice de Jésus. Nous avons besoin. Et c'est une grande nécessité dans la vie du croyant que Dieu illumine les yeux de nos cœurs afin que nous puissions réaliser sa grandeur. Combien, nous l'avons chanté, combien Dieu est grand. J'allais dire, qu'importe le moyen que Dieu va utiliser, parfois Dieu permet qu'il y ait des prodiges et des miracles dans nos vies personnelles autour de nous. C'est ce qui s'est passé pour Israël. Qu'importe le moyen que Dieu va utiliser. Parfois, c'est juste sa parole, ça nous a été redit dimanche dernier. Dieu n'a rien dit à Job. Il lui a juste posé des questions. Tu as vu les animaux? Tu as vu la création? Et juste par sa parole, il a communiqué, il a permis à Job d'élever les yeux vers la grandeur de l'Éternel. Qu'importe le moyen que Dieu utilisera, nous avons une révélation tout à fait exceptionnelle dans la personne, dans la vie du Seigneur Jésus-Christ, on y voit toute la grandeur de l'Éternel. C'est vrai que notre foi, elle peut être chancelante. Et c'est vrai qu'on l'a vu dans ces moments de doute et que nos épreuves, parfois, nous empêchent d'entendre sa voix. Mais j'ai envie de dire qu'importe. La foi, qu'elle soit forte ou qu'elle soit faible, qu'elle soit cette petite foi, ce qui est important, c'est qu'elle nous donne accès à la grandeur de Dieu. C'est ça qui est important. Toute la puissance de Dieu. La foi, en définitive, elle nous relie à celui qui a tout créé par sa parole. Elle nous relie à celui qui tient toute chose dans ses mains. Mais regardez dans la parole de Dieu. Regardez combien Dieu est grand. Par la création, toute l'œuvre de la création nous parle de la grandeur de notre Dieu. Il faut vraiment y fermer les yeux pour ne pas y voir la perfection des œuvres de Dieu tout autour de nous. Frère nous a rappelé dernièrement tout ce qu'il y avait dans la Voie lactée, dans l'infiniment grand comme dans l'infiniment petit. Le psalmiste, dans un psaume où il parle justement de ce Dieu créateur, dit ceci, « Mon âme bénit l'Éternel, tu es infiniment grand. Tu es infiniment grand. » Psaume 104, verset 1. J'en ai dit tout à l'heure, par son amour. La grandeur de Dieu par son amour. Jésus l'a dit lui-même, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. La croix qui nous est encore rappelée ce matin, mais elle ne nous témoigne-t-elle pas la grandeur de l'Éternel par son amour. Je vous ai cité Jean 15, verset 13. Par sa grâce, vous considérez la grandeur de l'Éternel par la grâce qu'il manifeste à tous les êtres humains. L'apôtre Paul ira jusqu'à dire, je l'ai noté, je vais le lire, en offrant ainsi sa miséricorde au plus grand des pécheurs, il parle de lui. Jésus-Christ a voulu montrer jusqu'où pouvait aller son pardon. C'est Paul qui parle, je devais illustrer toute l'étendue de sa patience et fournir la preuve de l'immensité de sa bonté. Mon exemple était destiné à encourager ceux qui croiraient en lui et à leur montrer quels hommes peuvent accéder à la vie éternelle par la foi. 1 Timothée 1, verset 16, dans la transcription Parole vivante, l'apôtre Paul, c'était un criminel de chrétiens. Il dit que Dieu l'a sauvé, que Dieu lui a fait voir sa grâce pour que tous les êtres humains comprennent bien l'immensité de la grâce de Dieu. Mais je sais pas quoi dire. Je ne sais pas comment décrire la grandeur de l'Éternel. Par sa parole, le ciel et la terre passeront, et ma parole, elle ne passera point. La grandeur de Dieu. J'ai noté même par le service. Vous savez, dans le royaume de Dieu, vous savez comment est défini celui qui est grand dans le royaume de Dieu ? Celui qui veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et je peux vous dire qu'à ce sujet, notre Dieu, il est vraiment grand. Il est vraiment grand. Je ne peux pas vous expliquer, je ne peux pas vous citer, mais je veux vous encourager à méditer la parole de Dieu. Elle est comme une fenêtre ouverte devant notre Dieu pour que nous puissions, et c'est primordial pour notre vie, être imprégnés de la grandeur de notre Dieu, comme l'a été le peuple d'Israël. Oui, nous avons besoin d'être obéissants, de marcher par la foi et d'être extirpés parfois par toute cette vue qui nous empêche de voir le Seigneur tel qu'il est. C'est vrai que l'incrédulité est parfois là dans nos vies, reconnaissons-le. Nous avons besoin, nous voulons marcher par la foi, mais nous avons besoin de réaliser, peut-être de s'extirper de ce que nous sommes véritablement, mais de regarder à lui. Vous savez, le danger dans la vie du croyant, et notre frère l'a rappelé en présentant la Sainte Cène, c'est de modifier l'objet de notre foi. Ça, c'est un des plus grands dangers dans la vie du croyant. Vous savez, on peut avoir bien commencé, il parlait des frères et sœurs de Galates, on peut avoir bien commencé, mais la foi, on peut la modifier dans son objet. Et ça, c'est un piège, il parlait du retour à la loi. On peut petit à petit déplacer notre foi sur un mouvement religieux, ça c'est catastrophique. On peut déplacer notre foi sur un homme, aussi spirituel qu'il soit, ce n'est plus la foi en Dieu telle que le Seigneur l'a voulu pour nous. On peut déplacer notre foi dans une organisation, ou dans notre vie personnelle, on peut placer plus de foi dans notre prière. On peut placer notre foi dans les rites, dans nos expériences. On peut même placer notre foi dans notre foi. Et c'est pour cela que Jésus a dit que même si notre foi c'est quelque chose de minuscule, si elle a pour objet le grand Dieu des cieux, rien ne lui est impossible. Plus je réalise la grandeur de mon Dieu, plus je réalise qu'un petit peu, c'est la fameuse, vous savez, la fameuse petite foi, le grain de moutarde. Plus je réalise la grandeur de mon Dieu, plus je réalise qu'un petit peu de sa grandeur suffit amplement pour me bénir. Et cela, quels que soient les domaines de ma vie, que ce soit dans le travail, que ce soit dans le domaine conjugal, que ce soit dans le domaine du pardon, que ce soit tous les domaines de notre vie, si je considère la grandeur de l'Éternel, je comprendrai qu'un petit peu de sa grandeur suffit pour me bénir entièrement. Certains en ont fait, en tout cas, la belle expérience, et ça sera mon deuxième point, la fameuse, je l'ai appelée une petite foi. Pourtant, entre parenthèses, je l'ai noté, pourtant, Dieu la qualifiera souvent de grande foi. Mais donc, si on est d'accord ensemble ce matin, la grande foi, eh bien, c'est la foi qui est petite comme un grain de moutarde, puisqu'elle est capable de transporter ces montagnes. Plusieurs en ont fait l'expérience. J'ai pris 5 exemples dans la parole de Dieu d'hommes et de femmes qui ont demandé un peu de la toute-puissance de Dieu, sachant et ayant réalisé en eux-mêmes que c'était largement suffisant pour leurs besoins. On les lit ensemble. Matthieu chapitre 8, verset 5. Je sais que vous les connaissez très bien, ces passages, mais dans le contexte que nous partageons ce matin, je voulais les reprendre avec vous, pas les lire, pour qu'ils puissent nous stimuler, fortifier notre foi. Matthieu, chapitre 8, verset 5, c'est la fameuse histoire, vous savez, du centenier qui vient intercéder pour son serviteur. Matthieu 8, verset 5, « Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai, je le guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. » Mais, dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va, et il va, l'autre vient, et il vient, et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs, des grincements de dents. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'est-ce qui est écrit dans votre Bible? Qu'on soit quand même, voilà, je suis certain que j'ai pas une Bible modifiée. Qu'il te soit fait selon ta foi. Jésus, dans bien des situations, aurait pu dire, va, c'est la puissance de Dieu qui est dans ma vie qui t'a guéri. Ta foi t'a guéri. Ta foi t'a sauvé. Va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, il est écrit dans la parole de Dieu, à l'heure même, le serviteur fut guéri. Cet homme avait une vision exacte de ce que t'es Jésus, de ce qu'il représentait, de l'autorité qui émanait de sa vie, et en ayant cette vision de la grandeur de l'Éternel au travers de Jésus, il a demandé un petit peu. Juste un mot. Un mot. Une petite foi en un grand Dieu. Deuxième exemple, Matthieu chapitre 9. Verset 20, la femme, vous savez, à la perte de sang. Matthieu 9, verset 20. Voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement, si je puis seulement, que ça, toucher son vêtement, je serai guéri. Jésus se retourna et il dit en la voyant, prends courage ma fille. Qu'est-ce qui est écrit ? Encore, ta foi t'a guéri. Et cette femme, il est écrit dans la Bible, et nous le croyons, cette femme fut guérie. À l'heure même, ta foi, une petite foi en un grand Dieu. Elle aussi, peut-être d'une manière imparfaite, mais réaliser la grandeur, la puissance de l'Éternel dans la personne de Jésus-Christ. Juste toucher son vêtement. Une petite foi en un grand Dieu. Un autre exemple, Matthieu 14, verset 35. Matthieu 14, 35. Jésus est dans le pays de Génézareth. Il est dit ceci, « Les gens de ce lieu ayant reconnu Jésus » envoyèrent des messagers dans tous les environs. Et on lui amena tous les malades, verset 36. Ils le prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Amen. Autre exemple, Matthieu 15, verset 22. On peut lire à partir du verset 21, c'est l'histoire aussi de cette femme cananéenne. Encore un contexte où Jésus va qualifier cette petite foi comme grande. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ses contrées, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur Jésus, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Verset 27, oui Seigneur, dit-elle. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Alléluia. J'avais envie de relire tous ces textes, j'aurais pu survoler que les conclusions, mais parce que notre foi, elle a besoin d'être stimulée, fortifiée. Soyons honnêtes, mes frères et sœurs, mais combien de fois nous avons pris la parole de Dieu chez nous, ensemble, quand nous avons prié, mais n'avons-nous pas eu notre foi stimulée par ces textes? Mais elle est là, la grandeur de Dieu. Si nous voulons grandir dans la connaissance de Dieu, dans sa grandeur, excusez-moi, mais il n'y a pas d'autre livre. Il n'y a pas d'autre livre. Il n'y a pas d'instant plus précieux pour que Dieu illumine nos cœurs, pour que nous reconnaissons la grandeur de son nom. Les miettes, elles me suffisent. Il y a du pain sur la table, oui, pour les enfants d'Israël, mais les miettes, elles me suffisent. Dernier texte, Actes 5, verset 14. Actes 5, verset 14. Vous savez, il y a eu de nombreux miracles aussi au temps à Jérusalem, au temps des apôtres, et il est dit, acte 5, verset 14, le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentaient de plus en plus, de sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que, lorsque Pierre passerait, son ombre au moins, vous vous rendez compte? Son ombre au moins en couvre quelques-uns. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades, des gens tourmentés par des esprits impurs. Et tous étaient guéris. Amen. Je voudrais conclure. Nous savons que sans la foi, il est impossible d'être agréable à notre Dieu. Hébreux 11, verset 6. C'est un des mobiles principaux de l'action de Dieu dans notre vie, je le redis, notre foi. Notre foi. Dieu regarde la terre, Dieu a des intentions de nous bénir, d'œuvrer dans nos vies, mais trouvera-t-il la foi nécessaire? Et je crois que peut-être en partageant ceci ce matin, il est temps de cesser de regarder à nos faiblesses. Il est temps peut-être de cesser de regarder à nos échecs, à nos manquements, mais pour regarder à celui qui s'est engagé envers nous par sa parole. Les promesses ne sont-elles pas nombreuses dans les Écritures, où il nous promet très clairement de nous garder, de nous protéger, de nous aider à marcher dans ses voies, de nous aider à mener une vie sainte, telle que cela a été rappelé tout à l'heure, etc. Le secret d'une petite foi capable de transporter les montagnes, c'est celle qui connaît Dieu comme celui qui est capable de faire des choses qui dépassent notre entendement. Dieu n'est pas limité. Parfois, nous le limitons par les épreuves, comme nous l'avons vu dans le peuple d'Israël, par des circonstances, peut-être même parfois par des faux raisonnements, comme cela est rappelé souvent ici aussi. Dieu n'est pas limité. Vous savez que Abraham est un modèle excellent de la foi en Dieu, qu'il a volontairement obéi le jour où Dieu lui a demandé de sacrifier son fils. On est bouleversé quand on voit comment il est écrit, Dieu, il parle à Abraham. Abraham prend son fils, part. Ça a été rappelé dimanche dernier. N'oublions pas tout de même, quand même, quand on lit ces textes, que c'était un homme de la même nature que nous, Abraham. D'ailleurs, dans la promesse d'avoir une descendance, vous savez qu'à un moment donné, et il est écrit, j'ai noté ce verset, Abraham écouta la voix de Saraï, sa femme. Vous savez, quand elle l'a envoyée auprès d'Agar, sa servante. C'était un homme de la même nature que nous, ne nous y trompons pas. Mais c'est un homme qui a appris à connaître Dieu. Et ayant, je cite la parole de Dieu, ayant la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir dans Romains 4, verset 21. Et vous savez, Abraham, lorsqu'il part avec son fils pour ce fameux sacrifice, la conviction d'Abraham est si profonde qu'il est écrit ceci pour cette circonstance particulière. Je vous lis un verset des Hébreux dans la transcription Parole vivante. À l'heure de l'épreuve, c'est la foi qui permit à Abraham d'offrir Isaac en sacrifice. Oui, il allait immoler son fils, porteur des promesses que Dieu lui avait faites. En effet, il lui avait été dit, c'est par Isaac que tu auras une descendance portant ton nom. Il pensait, Abraham, pensait, que même si Isaac était mort, Dieu était assez puissant pour le ramener à la vie. Dans un sens, c'était comme par une résurrection d'entre les morts que son fils lui a été rendu. Pour nous, cet événement a un sens symbolique. Il préfigurait la résurrection de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, l'unique. Il pensait, Abraham pensait, que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Voilà dans quel état d'esprit Abraham est allé offrir son fils Isaac. La foi, semblable à un grain de moutarde, quand elle s'appuie sur celui qui a créé toutes choses, cette foi-là, elle ne connaît aucune impossibilité pour la gloire de notre Dieu. Prions-le ensemble. Éternel Dieu, nous voulons te rendre grâce, te bénir une fois de plus de nous avoir donné ta parole. Et c'est vrai que nous réalisons encore ce matin, mais qui est suffisant pour ces choses ? Te prions pas, Seigneur, d'augmenter particulièrement notre foi, même si nous voulons grandir dans cette foi et nous voulons que notre foi soit de plus en plus grande. Mais nous voulons te prier ce matin que grandisse en chacun de nos cœurs la connaissance de la grandeur de ton nom. Seigneur, au travers de ce que tu fais dans nos vies, au travers de ta parole, de l'Église, de la communion fraternelle, de tout ce que tu as mis à notre disposition, nous voulons que tu nous aides à ouvrir les yeux, à illuminer les yeux de nos cœurs, afin que les uns et les autres, nous puissions te voir tel que tu es, le Dieu de l'impossible. Merci de nous avoir aidés le jour où nous avons fait agir notre foi, où cette montagne du péché dans nos vies est allée dans la mer. Tu ne t'en souviens plus, Seigneur. Nous avions une foi minuscule, miniature, mais nous avons compris à ce moment-là combien tu étais grand. Merci pour la révélation de la grandeur de ton amour. Seigneur, cette parole, nous te demandons de la garder serrée dans notre cœur. Te demandons de nous protéger du malin qui voudrait nous l'envoler. Seigneur, garde-nous les uns et les autres, que nous puissions être des témoins fidèles à la gloire de ton nom. Comme cela a été dit tout à l'heure, nous voulons te ressembler dans nos paroles, dans nos actes, jour après jour, être des témoins fidèles à la gloire de ton nom. Garde mes frères et sœurs, Seigneur. Garde-nous et que nous puissions grandir, Seigneur, pour la gloire et l'honneur de ton nom. Amen.